rencontre avec nos évêques.
Chers auditeurs, bonjour. Thibaut Dautuy, le micro de Radio Présence pour votre émission hebdomadaire de rencontre avec un des évêques de notre région. Et pendant tout ce mois de novembre, nous serons accompagnés par Monseigneur Fonlu, qui est évêque de Rodez. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Thibaut.
Bienvenue au micro de Radio Présence. Pendant ce mois de novembre que nous allons passer ensemble, 5 vendredis, 5 sujets que nous allons aborder avec vous, 5 sujets différents. Dans l'ordre, un petit retour d'abord sur le synode en Amazonie qui vient de se conclure. Et nous ferons un point aussi sur un voyage que vous avez fait récemment en Polynésie française. La semaine prochaine, vous serez à Lourdes pendant le conseil permanent. Donc nous ferons un petit point d'étape aussi sur l'Église de France. La semaine suivante, nous aborderons ensemble votre nouvelle présidence du conseil pour les mouvements et associations de fidèles. Ensuite, un petit point d'étape sur le synode en Aveyron. C'est décidément un mois très synodal. Et enfin, nous terminerons avec un sujet qui vous est cher, qui est celui du dialogue des chrétiens dans la société. Eh bien, donc, merci encore, Monseigneur Fonlu, de nous accompagner pendant tout ce mois de novembre.
Merci.
Alors, commençons par cette actualité qui est forte dans l'Église du monde, qui est la fermeture de ce synode qui a eu lieu pendant tout le mois d'octobre, qui était d'ailleurs un mois missionnaire souhaité par le pape François. Et au milieu de ce mois missionnaire, donc, ce synode qui a eu lieu au Vatican, mais qui était un synode dédié à l'Amazonie. Il s'est clos samedi dernier, donc il y a une semaine maintenant. On n'a pas eu évidemment les documents dans les mains. Ils ont été d'abord diffusés en italien, en espagnol, mais pas encore parvenus jusqu'à nous en langue française. Donc on n'a pas vraiment les conclusions sur lesquelles les pères synodaux se sont mis d'accord. Mais déjà, de ce qu'on a pu en lire, des récits qu'on en a eus, soit de Radio Vatican, soit du journal La Croix, etc. Quelle est aujourd'hui votre perception du succès ou de l'échec de ce synode ?
Moi, j'aurais d'abord envie de souligner l'aspect étonnant qu'une structure catholique comme l'Église, dans la globalité de ce qu'elle est, soit capable de s'arrêter avec un certain nombre de responsables pendant 3 semaines, puisque le synode a duré 3 semaines, sur la réalité de l'Amazonie et de la présence, de ce que vivent des hommes et des femmes sur cette terre de l'Amazonie, et sur ce que vit l'Église et les questions qu'elle peut rencontrer. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez étonnant et dont il est déjà très important de prendre la mesure, de repérer un peu le coup de projecteur qui est donné sur cette terre-là, alors que c'est une terre qui est en souffrance, qui est en difficulté, où on remet en cause beaucoup l'exploitation des matières premières, l'exploitation de la forêt et le risque de non-respect des populations indigènes qui vivent sur ces terres-là. Et le synode nous a invités à être très sensibles à cette dimension-là. Et puis, on se rend très attentif à une Église qui est modeste, une Église qui est peu nombreuse, une Église qui est très disséminée et où les communautés peuvent avoir du mal à être liées les unes aux autres et où les ministères, des prêtres en particulier, ont du mal à les rejoindre précisément. Voilà, mais ce que je veux souligner d'abord, peut-être comme un aspect qui me paraît important qui ne passe pas inaperçu, c'est que voilà, l'Église catholique universelle, elle sait s'arrêter des fois sur des lieux comme ça, nous proposer de regarder des aspects à la fois profondément importants, mais qui peuvent passer inaperçus dans la rapidité de la vie du monde.
C'est vrai que l'Amazonie, on n'en entend parler que pour les forêts incendiées,
oui,
que pour les terrains qui sont dégagés, etc. C'est le seul sujet en fait qui vient jusqu'à nous de l'Amazonie. Donc là, c'est vrai que c'est une manière pour nous chrétiens, et aussi un chrétien, on l'espère, d'ouvrir les yeux sur la réalité de ce territoire.
Sauf qu'on peut s'interroger sur la couverture médiatique d'un tel événement en
hors
dehors des médias chrétiens.
Oui, certes.
Il me semble.
Certes, parce que c'est vrai que les enjeux abordés sont effectivement des enjeux ecclésiaux.
Mais aussi, oui, des enjeux ecclésiaux, bien sûr, mais aussi des enjeux humains, des enjeux écologiques, des enjeux qui touchent au devenir de la planète et à la manière dont les hommes prennent aujourd'hui des décisions qui permettent ou pas se devenir pour notre planète.
Vous pensez que l'écologie a été un sujet central dans ce synode? Parce que c'est vrai qu'on, pour le coup, ce n'est pas quelque chose qui ressort aujourd'hui quand on regarde.
Je pense qu'on a plus été sensibles, nous, à des questions de ministère ou de manière un peu d'accompagner les communautés et de les soutenir par des acteurs en responsabilité qu'à des questions d'écologie ou d'attention au devenir de ce secteur de la planète et de l'Amérique latine. Mais il y a en tout cas une vraie, et je crois que le texte commence de cette manière-là, en invitant à entendre le cri des pauvres, en invitant à entendre le cri de la forêt, le cri de cette terre-là, qui d'une certaine manière risque de ne pas être respectée, et qui donc touche aussi à la responsabilité et de l'Église, mais qui touche à la responsabilité des hommes par rapport à ces lieux-là.
Oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui ressort aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose qui nous touche, nous, occidentaux, alors qu'effectivement, les deux cas n'ont rien à voir. C'est le sujet, effectivement, de la diminution du faible nombre de ministères ordonnés pour apporter l'Eucharistie, pour apporter les sacrements à des gens qui sont très 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 éloignés les uns les autres. Et pourquoi ça nous touche, nous? Parce que nous, on prend en plein fouet la rareté aussi des ministres ordonnés chez nous. Donc peut-être, alors qu'effectivement les deux situations n'ont rien à voir, peut-être que c'est là que ça nous touche et que ça nous rejoint.
C'est-à-dire qu'on est tous un peu en question aujourd'hui sur la manière dont... Comment on peut réfléchir à cette question-là d'accompagner de manière juste les communautés dans leur besoin de la rencontre avec le Christ, dans la célébration des sacrements. Donc c'est la question de l'appel au ministère, c'est la question des vocations, c'est la question des conditions d'accès au ministère, c'est peut-être aussi la question un peu de la reconnaissance d'un certain nombre de ministères, donc de services aussi des communautés, qui est peut-être à déployer plus qu'elle ne l'était jusqu'à présent, quoi.
C'est vrai que c'est en fait ce qui vient derrière, c'est la question des rites en fait. Est-ce qu'il est encore possible pour l'Église universelle aujourd'hui de créer des rites spécifiques qui seraient dédiés à une zone du monde, puisque on parle aujourd'hui d'un synode en Amazonie? Est-ce qu'on peut créer des conditions spécifiques pour l'Église d'Amazonie qui ne s'appliqueraient pas à l'Église universelle?
Chaque Église locale a des pratiques particulières ou développe des choses particulières. Alors est-ce qu'il faut aller jusqu'à la création d'un rite pour l'Église qui vit en Amazonie? Je ne sais pas, j'appréhende pas suffisamment tous les éléments de la question pour avoir un avis là-dessus. Mais en même temps, au-delà de la question des rites, donc de la manière de célébrer, c'est ce qui s'est posé plus largement, c'est la question des acteurs, donc de la question des ministères et des conditions d'accès au ministère. Hein, donc les éléments qui ont été entrouverts, c'est autour d'une réflexion par rapport à... qui sont proposés au pape, et il faudra voir ce que le pape en reprend.
Voilà, hein, tout à fait.
On en est là simplement de l'étape. Mais donc c'est la question de l'appel éventuel de diacres ayant manifesté une expérience déjà suffisamment conséquente et éventuellement mariés qui puissent être appelés au ministère. Hein. Et puis c'est aussi du côté des femmes la reconnaissance de leur place dans l'animation de beaucoup de communautés, peut-être la reconnaissance ou la définition de ministères qui jusqu'à présent étaient réservés aux hommes, comme le lectorat, comme l'acolyta, qui sont des ministères reçus par les candidats au sacerdoce dans leur préparation pendant la période du séminaire. Éventuellement, si je ne m'abuse, la réflexion un peu d'un ministère de responsable de communauté. Voilà. Et ça, c'est peut-être des questions qui se posent chez eux particulièrement, qui peuvent aussi se poser ailleurs, mais dans des contextes différents un petit peu à chaque fois.
Et justement, vous étiez récemment en Polynésie française, autre contexte de communauté éparpillée. Est-ce que c'était des questions que vous avez touchées du doigt là-bas?
C'est une réalité surtout que j'ai perçue. C'est l'Église catholique en Polynésie, elle est présente là-bas depuis 150 ans, 1850. Et c'est cette période-là où les missionnaires sont arrivés et ont commencé à faire exister l'Église. Et donc depuis l'origine, qui est une origine assez récente, les communautés chrétiennes qui ont existé n'ont pas eu l'habitude d'avoir des... Elles ont eu des missionnaires qui sont passés, mais elles n'ont pas eu l'habitude d'avoir des prêtres résidents qui sont devenus assez rapidement l'axe central de la communauté. Donc depuis un certain temps, il y a des ministères qui ont été définis, qui sont confiés à des laïcs. Il y a en particulier chez eux ce qu'ils appellent les catéchitas. Alors ça, il ne faut pas confondre avec nos catéchistes à nous, mais les catéchitas sont des responsables laïcs de communauté. Il y a des diacres et il y a pas mal de diacres, Mais il y a à côté d'eux, il y a un responsable laïque, hein, qui est, dans la grande majorité, ce sont des hommes.
Qui
Mais il
n'est
y a
pas
aussi,
ordonné, donc?
il y a aussi quelques femmes qui ne sont
Qui
pas
n'est pas
ordonnées, mais
ordonné, oui.
qui reçoivent la charge de porter la préoccupation de la communauté dans sa vie globale, quoi. Et ils le font après un temps de formation relativement conséquent, ce qui m'a beaucoup impressionné. Donc j'étais donc à Papeete, hein, à Tahiti. Et chaque année, pour ce diocèse de Tahiti, il y a 600 à 700 personnes qui viennent pendant un mois, le mois de juillet, se former pour différentes responsabilités qui peuvent être portées dans les communautés, celle de catéchita, celle de ministre extraordinaire de l'Eucharistie, celle de responsable de la liturgie, celle de responsable de la catéchèse, etc. Et donc il y a un certain nombre de fonctions qui font que les communautés ont une relative autonomie dans leur manière de vivre, de s'organiser, de s'animer, de vivre des célébrations. Et le prêtre passe d'une communauté à l'autre. Hein. Il y a des endroits où il voit un prêtre tous les 6 mois ou tous les 2 mois, ou etc. Alors il est toujours accueilli avec beaucoup de joie et quand il vient, il vient célébrer l'Eucharistie, bien sûr. Il vient célébrer les sacrements. Il vient aussi conforter les responsables de la communauté. Il vient reconsolider la communauté dans ce qu'elle vit. Mais on sent d'une certaine manière par rapport à nous ici que les prêtres sont peut-être moins, comment dire, moins préoccupés de l'ensemble des questions qui sont difficiles pour eux à porter ici chez nous, quoi, hein, parce que on garde le souci de porter l'ensemble alors qu'on en a de moins en moins la possibilité.
Oui.
Eh bien, on sent que là-bas, d'une certaine manière, c'est porté aussi par un certain nombre de chrétiens adultes et qui donnent des personnalités tout à fait particulières aux communautés qu'ils animent, quoi.
On a peut-être du mal, nous, à s'affranchir de notre passé, tout
Ben oui,
simplement.
chacun dépend de son passé, hein, chacun en hérite et
Oui.
heureusement, hein, mais c'est vrai que moi, je ne suis pas sûr du tout, j'étais très heureux de l'opportunité qui m'a été donnée là, d'aller prêcher une retraite là-bas, mais on voit en tout cas une église qui a su inventer des choses qui ne peuvent pas se transposer de la même manière aujourd'hui, il ne s'agit pas de vouloir cela, mais qui peuvent nous donner, nous, à réfléchir sur la manière de réorganiser la vie de nos communautés alors que les prêtres y sont moins présents.
C'est un appel à l'imagination.
Voilà.
Merci, Monseigneur, et à la semaine prochaine.
Merci.
Rencontre avec nos évêques.